qui a beaucoup fait parler de lui juste avant les élections. Allô, Benoît Duteurtre.
Bonjour Alain Pocard.
Oh, Benoît Duteurtre, quelle joie de vous recevoir.
Bah écoutez, je sais pas ce que c'est que cette musique martiale, en tout cas, mais ça a l'air bien derrière.
Oui, moi j'aime pas tellement. Je crois que c'est la musique du film Cartouche.
Ah voilà.
De Broca, mais j'en suis pas sûr. Hein,
c'est tout à fait ça, Alain.
Voilà. Alors, Benoît Duteurtre, juste avant les élections, et un petit peu avant d'ailleurs, vous avez sorti un livre qui a des côtés désopilants et des côtés terribles, « Les dents de la mer comme la mer de Paris », sous-titré « Souffrance d'un piéton de Paris ». Et je vous avais invité, après les élections, en me disant « ce livre vaut beaucoup mieux » que de parler seulement de l'élection, et je trouve que c'est un livre qui se situe dans toute une critique de la marchandise et du spectacle, et que vous êtes en quelque sorte, ce livre est en quelque sorte un codicille à la Société du spectacle, le livre de Guy Debord en 67.
Ah bah écoutez, c'est un compliment alors.
Mais oui, mais oui, mais...
Je ne sais plus si c'est dans la Société du spectacle ou dans un autre livre de Debord, qu'il mentionne très explicitement, il fait référence à Louis Chevalier, historien de Paris.
Ah, mais vous en parlez dans votre livre. Paris.
Et il y a donc comme ça des liens très profonds entre la critique de Debord de son époque et les considérations sur l'urbanisme parisien.
Exactement. Mais alors, attendez, parce que j'ai appris que vous avez perdu récemment quelqu'un de très cher, une grande personnalité, une grande artiste française.
Une grande parisienne d'ailleurs.
Aussi, et je sais que, écoutez, bon, même si on ne fait pas la demi-heure à laquelle on a droit sur votre livre, mais prenez le temps qui vous plaît pour l'évoquer, et de toute façon, quand ce sera possible, vous reviendrez dans mon émission.
C'est très gentil. Alors, on dit son nom quand même.
Ah bah bien entendu.
Puisqu'il s'agit de Suzy Delair, ma chère Suzy Delair, que j'ai eu la joie de connaître dans une forme éblouissante, alors qu'elle avait dans les 80 ans. On a passé une quinzaine d'années à se voir beaucoup, elle m'a appris mille choses. Et malheureusement, ces dernières années, elle était très fatiguée. Vous savez qu'elle est morte à l'âge de 102 ans, hein, le 15 mars.
Je sais.
Voilà, dans une maison de retraite parisienne. Et j'insiste, puisqu'on parle de Paris aussi aujourd'hui, sur la parisienne, parce que moi, j'ai souvent l'impression que Suzy Delair, c'était un peu la dernière représentante d'un espèce de type de femme populaire parisienne, avec un esprit très vif, des idées assez réac, il faut le dire, etc. Un peu, vous voyez, dans le sillage d'Arletty, ou de Miss Tinguette, ou d'Yvonne Printemps, ou d'autres comme ça, il y avait comme ça un type de la parisienne, et elle qui avait grandi d'ailleurs avec une mère couturière et un père artisan, c'était vraiment qui venait de ces milieux, voilà, de l'artisanat, des petites mains, etc., et qui avait forgé un type de personnalité très, très présent dans le cinéma français, et qui aujourd'hui, évidemment, a complètement disparu. Je pense que c'était un peu la dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Alain, mais...
Alors, vous venez dire une chose qui est très très juste, et d'autant plus juste que je suis outré quand j'entends des gens ne pas aimer le seul film réalisé par Henri Janson qui s'appelle Lady Panam. Elle est Lady Panam, je trouve que c'est un excellent film, et elle est très bonne aussi. Hein.
Elle est formidable, elle chante d'ailleurs dans ce film comme dans beaucoup de films, parce que bon, alors l'autre caractéristique de Suzy Delair, c'était que finalement, toute sa vie s'est partagée entre le cinéma et la chanson. Et alors, le grand public s'en rend pas forcément compte parce que le grand public connaît beaucoup mieux le cinéma que la chanson, aujourd'hui du moins. Et donc, pour la plupart des gens un petit peu cinéphiles, évidemment, Suzy Delair, c'est d'abord Quai des Orfèvres, c'est L'Assassin habite au 21, et pourquoi pas Rabbi Jacob, même si c'est un petit rôle, enfin tout le monde s'en rappelle. Mais en réalité, je pense que la musique était largement aussi importante pour elle dans sa vie que le cinéma. Et c'est ce que Clouzot avait bien compris aussi, puisqu'il a commencé tout de suite par lui donner des rôles chantants, je crois, dès L'Assassin habite au 21 d'ailleurs, et même avant, dans Le Dernier
Six. Le dernier Six, c'est La Combe, hein, mais...
Oui, mais c'est un scénario de Clouzot.
Oui, ah bon, d'accord. Oui,
voilà.
Oui.
Et c'est lui qui l'a lancé vraiment avec ce double métier qu'elle avait, qui est très typique des gens du musical. Voilà, le talent d'actrice, la répartie, la comédienne, et en même temps l'amour de la chanson qu'elle portait très haut, parce qu'elle avait une voix merveilleuse, une diction exceptionnelle, et voilà, et qu'elle a fait des tubes. Alors évidemment, c'est pour tout le monde, c'est le tralala, bon, qui est formidable, parce que c'est Quai des Orfèvres, c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma, on peut le dire, le redire, mais il y a tellement de belles chansons. Moi, je pense par exemple dans un film qui est un AV, mais qui quand même m'a beaucoup marqué parce que c'est quand même le dernier Laurel et Hardy.
Oh, c'est même une catastrophe. Hein.
Comment ?
C'est même une catastrophe.
Oui,
hein.
Oui, sauf que Suzy Delair dans ce film chante là une chanson de Misraki, je crois, qui s'appelle « Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime ». Et alors ça, je peux vous dire, c'est vraiment, c'est le meilleur moment du film. Et la chanson tirée du film, alors elle tient toute seule. Et elle a fait comme ça beaucoup. Et puis elle a été la grande interprète d'Offenbach, notamment dans la production de Renaud Barrault en 58 au Palais Royal. Donc il y avait vraiment, faut pas oublier tout cet aspect-là de sa vie, même si on connaît mieux la femme du cinéma. Et alors, bon, c'était surtout une personnalité, un tempérament, une mémoire. Elle pouvait me raconter la vie vraiment des théâtres, des petits comédiens, des petites femmes, comme on disait, pour le genre de rôle qu'elle faisait à ses débuts dans les années 30, les relations avec les directeurs, avec les metteurs en scène, tout ce monde d'avant-guerre des années 30. Elle était vraiment la seule à pouvoir en parler avec une telle précision. C'était tout à fait fascinant, même si, bon, voilà, c'était quelqu'un que... Quand on était amis avec elle, fallait suivre. Hein. Elle avait de la personnalité. C'était un caractère. Mais voilà, j'ai vraiment été très heureux de tous ces moments passés avec elle, à pouvoir remonter le temps d'une certaine façon.
Mais attendez, quand vous dites que vous l'avez connue vers 1980...
Donc, quand elle avait 80 ans.
Voilà. À 80 ans, oui. Bah, ça fait 22 ans.
Vous l'avez... C'est-à-dire plutôt vers 1980...
Bon, peu importe.
80, ouais, oui. 95.
Mais 97, ça veut dire ouais. Que c'est pas seulement une connaissance, c'est une longue amitié.
Ah oui, vraiment, oui, je vous assure, elle est... je vous dis, Suzy, il fallait la suivre, c'était être amie avec elle, ça voulait dire d'abord qu'elle vous téléphone en pleine nuit.
Ah bon?
De son lit, devant sa télé, pour faire tous les commentaires de l'actualité, mais elle adorait ça, parler aussi bien des nouvelles vedettes,
Qu'elle pensait un peu des nouvelles vedettes, justement.
Pardon ?
Qu'est-ce qu'elle pensait un peu des nouvelles vedettes ?
Ah, je me rappelle qu'elle aimait beaucoup la voix de Garou, par exemple. Ça, elle le trouvait formidable.
Ah oui, la voix, oui.
Oui, la voix, oui, peut-être moins le répertoire. Hein. mais tout ça l'intéressait. Elle n'aimait pas l'époque. Hein. Non, elle détestait cette époque. Elle le disait carrément. Elle détestait tout ce que la France était devenue. Mon Dieu, mon pauvre pays, etc. Mais en même temps, elle était curieuse quand même. Elle était très vive. Elle n'était pas du tout enfermée dans le passé, même si elle avait un regard très, très critique.
Bah, dans le genre réac, je crois qu'elle était amie avec Geneviève Dorman. Hein.
Oui, elles se sont connues. Alors, c'était avant, moi, à l'époque où j'ai connu Suzy. Mais bien sûr, elles se sont connues. Et alors... voilà, puis parfois, voilà, elle me disait, tiens, je vais t'acheter des vêtements. Alors elle me donnait rendez-vous dans le quartier de l'Odéon, on allait dans des magasins pour trouver des choses, on s'est trouvé que ça m'allait bien, parce qu'elle voulait toujours que je sois bien habillée, puis après on allait boire un chocolat chaud, elle était... puis on rentrait chez elle, et puis un jour, elle commençait à penser à quitter son appartement, alors elle me demande sa bibliothèque, elle me dit, prends ce que tu veux. Je dis, mais Suzy, enfin, tu habites encore là, je ne vais quand même pas te déposséder de tes livres, je n'oserais jamais. Elle me dit, je t'ordonne de le faire. Alors, je suis parti avec...
Ah, on obéit dans ces cas-là. Hein.
On obéit dans ces cas-là. Et je suis reparti avec une superbe édition de Balzac que Clouseau, je crois, avait acheté il y a très longtemps. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. Hein. Et puis alors, j'ai une grande joie aujourd'hui. Bon, je dis, c'est triste parce qu'elle vient de mourir. En même temps, elle était si âgée, si fatiguée que... C'était bien que ça, sans doute que ça se termine maintenant, mais moi je pense à elle pratiquement tous les jours parce que j'ai chez moi à Paris son piano, un joli petit Pleyel en bois de citronnier.
C'est un quart de queue, un droit.
Un quart de queue typique fin des années 30, c'est-à-dire avec une ligne un peu art déco, vous voyez, les pieds, tout ça.
Ouais.
Et voilà, et je joue dessus. Parce que j'aime bien faire du piano tous les jours, et je me dis, tiens, quand je pense que Suzy a travaillé sur ce piano avec Maurice Sivin, avec Georges Vamparis, avec Francis Lopez, avec Jean-Louis Barrault pour travailler tous ses airs, je me dis, oh mon Dieu, quelle chance j'ai d'être là avec elle de cette façon-là. Voilà.
Écoutez, si vous voulez qu'on reparle encore de Suzy Delair, on le fait, mais je vous demande simplement... deux, trois films indispensables à voir et que nos amis auditeurs pourront trouver sur Internet ou en DVD. Enfin, ils se débrouilleront. Hein.
Oh bah écoutez, bon, évidemment qu'il y a des orfèvres. Évidemment, l'assassin habite au 21, c'est quand même très bien. Lady Panam, vous l'avez cité. Mais dans un genre plus léger aussi, j'aime beaucoup, par exemple, Le couturier de ces dames. où elle joue le rôle de la femme de Fernandel. C'est un film, une petite comédie très enlevée, je crois, de Jean Boyer.
Jean Boyer, excellent Jean Boyer. On est en train de le découvrir en
ce moment.
Ah bah
oui, on a bien raison. Oui.
Enfin.
Et puis, elle a des scènes quand même très belles dans Gervaise, par exemple, hein, même si elle n'a pas le rôle principal. Voilà, on voit là quelques-uns, mais...
Alors, moi, il y a un sketch où je la trouve formidable, c'est dans Souvenir perdu.
C'est vrai.
Elle est amoureuse d'un type très riche qui ne lui a pas dit qu'elle était riche, qui doit être François Perrier, et il fait croire par son domestique qu'il est mort. Et elle va à l'enterrement, on lui a indiqué l'enterrement, en fait, d'un membre de l'Institut. Et elle arrive, elle se couche sur le cercueil du membre de l'Institut. Et on voit un peu ses porte-jarcelles et tout en hurlant « Mon chéri, mon chéri !» Ça, je veux dire qu'elle est absolument impayable.
Hein. Impayable.
Elle n'a qu'un sketch, hein. Elle a le quart du film, mais elle est impayable. Impayable. Benoît, il faut travailler maintenant. Si vous le désirez.
Non, mais moi, je vous suis tout à vos ordres, mon cher Alain.
Oui, alors vous dites un peu que, madame, d'abord, il faut dire que là, vous citez une expression, une phrase de madame Hidalgo qui est à se tordre de rire, de stupidité. À pied, à vélo, en trottinette. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne doit pas dire à trottinette, enfin bon. À pied, à vélo, en trottinette, en poussette, les joggeurs et les flâneurs ont fait du patrimoine parisien une autoroute urbaine joyeuse et citoyenne. On est consterné quand on lit ça, écoutez.
Voilà, c'est le concept d'autoroute citoyenne que je trouve oui, vraiment extraordinaire.
Ah, bidonnant, mais crétinesque.
Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je le connais d'autant mieux que moi, j'habite tout près de la Seine. Et je vois donc les voies sur berge, je vois ce qu'elles sont devenues. Voilà, bon, c'est effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'elle appelle une autoroute citoyenne. C'est pas un endroit très poétique, hein. C'est pas un endroit où on a vraiment envie de flâner parce qu'il y a une espèce de flux continuel, quand il fait beau, sinon il n'y a personne, mais un flux continuel de véhicules à roulettes, de toutes sortes, de gens qui font du sport, parce qu'il y a aussi beaucoup derrière tout ça, l'idée de l'entretien de soi, qui est très importante. Et voilà, c'est pas du tout les berges où on aurait aimé flâner en un autre temps, et où je descendais d'ailleurs flâner toutes ces dernières années, dès qu'il y avait une inondation, vous savez, dès que la Seine était trop haute, les voies sur berge s'arrêtaient, les voitures ne roulaient plus, et là, tout d'un coup, il y avait une poésie merveilleuse de descendre là, il n'y avait personne, c'était pas encore une autoroute citoyenne, on marchait voilà, tout près de l'eau avec les oiseaux, et toute cette poésie des berges de la Seine, elle a un petit peu disparu dans cette volonté de soi-disant les rendre aux Parisiens.
La première chose à faire sur ces berges, ça serait de mettre des pavés de façon à ce que les vélos ne puissent pas rouler sur les quais.
Oui, bien, d'accord.
Enfin bref, non, ce que vous dites très très bien, c'est pour ça que je dis, vous êtes dans la lignée de Debord et c'est formidable, c'est que vous avez bien compris que le terrorisme de masse est un destructeur de civilisation et qu'il y a une ville modèle pour les gens de la ville de Paris, c'est New York. Nous n'avons absolument pas la même histoire. Nous avons une histoire un peu similaire avec Budapest, avec Prague, avec Madrid, avec Berlin, avec Bruxelles, mais on n'a pas d'histoire en aucun cas avec New York comme ville modèle, enfin.
Oui, et encore... Je dirais presque, peut-être plus encore que New York, plus même aussi certaines villes du Nord, vous savez, très ennuyeuses comme La Haye ou Copenhague, où tout le monde roule à vélo et où il se passe pas grand-chose, mais c'est très, très plate, un peu rasoir. Mais bon, en tout cas, la poésie particulière de Paris, l'histoire particulière de Paris, ça va avec effectivement un style de vie. Et moi, j'ai souvent l'impression que ceux qui sont en charge de la ville de Paris depuis un certain nombre d'années, en fait, n'aiment pas Paris, n'aiment pas la ville.
Ah bah, c'est évident.
Ils veulent lui régler son compte d'une certaine façon. Il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord, parce que je parle à plusieurs reprises dans ce livre du baron Haussmann, pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration.
Mais moi aussi, évidemment. Pour qui me prenez-vous, Benoît Duteur?
Mais parce que je crois qu'il y a derrière tout ça une espèce de vieux fond plus ou moins bien assimilé et digéré de culture gauchiste, selon laquelle, évidemment, Haussmann, c'est l'abomination, il a détruit Paris pour réprimer la commune.
Ce qui est une blague, hein.
Et il y a comme ça une certaine haine de ce modèle urbain extraordinaire que Haussmann a mis au point, qui était tellement extraordinaire parce que à la fois il englobait, même s'il y a eu des destructions bien sûr, mais enfin il englobait beaucoup de la ville ancienne, mais il homogénéisait l'ensemble et en même temps il avait un aspect visionnaire par rapport à toutes les questions de la circulation moderne et du XXe siècle à venir. Donc c'était voilà. Et puis il y a dans les travaux d'Haussmann et dans tout ce qui s'en est suivi, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire évidemment le décor parisien, les couleurs, les structures des immeubles, les squares, les fontaines, tout ça, etc. Et c'est tout ce contre quoi la ville aujourd'hui donne l'impression de vouloir lutter pour prouver en quelque sorte qu'elle existe au lieu simplement d'entretenir ce qui est. Et voilà ce qui me paraît très
j'ai la nette impression, et c'est plus qu'une impression, c'est une certitude, que depuis Delanoë, car ça a commencé avec Delanoë.
Ça a commencé avec Delanoë, ça s'est aggravé avec Hidalgo.
Ah voilà. Elle a moins le sens de la communication, c'est assez clair. Mais j'ai l'impression qu'il y a une chose dont il se fiche complètement, c'est cette chose qui s'appelle le patrimoine.
C'est ça. D'ailleurs, oui, c'est ça, là encore, dans les lieux communs, d'une certaine pensée progressiste, etc., c'est toujours très, très mal vu de trop s'intéresser au patrimoine, parce qu'il faut toujours aller de l'avant, réinventer quelque chose. Mais sauf que, là encore, je pense que Paris est un modèle urbain absolument unique en son genre, et qu'il doit avant tout être soigné, entretenu, d'autant plus qu'il est tellement propice à l'épanouissement de notre vie d'homme moderne. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de refaire la ville. Haussmann avait vu avec beaucoup d'avance comment est-ce qu'on allait vivre. Mais donc voilà, moi j'habite, je le disais, près des quais de la Seine, tout près de l'hôtel de ville. Et voilà, je sors de chez moi, c'est un peu le livre de mes promenades, et je découvre par exemple devant l'hôtel de ville des énormes poutres de chantier. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont dû oublier de les retirer après une des innombrables animations dont on nous fatigue face à l'hôtel de ville. Et puis après, à un moment, je me suis dit, non, ils n'ont pas oublié, en fait, c'est des bancs publics.
Oui, mais là, vous vous êtes trompé. C'est pas des bancs publics, cher ami. C'est de l'art contemporain. Vous êtes assis sur de l'art contemporain.
Ça n'a aucun sens parce que on récupère des morceaux de justement de chantiers d'industrie pour leur donner un sens et les transformer en mobilier urbain. Il y a sûrement des gens qui réfléchissent là-dessus, tout comme ceux qui ont mis des espèces de bouts de rocher au Panthéon, tout autour du Panthéon, pour marquer le lien entre cette pierre sculptée de soufflot et la pierre naturelle. Enfin, il y a toujours du concept derrière,
mais c'est que la chose est à la fois de l'art contemporain et quelque chose sur laquelle on peut s'asseoir. Mais bon, on voudrait s'asseoir sur la mairie de Paris, mais ça va peut-être être difficile. Alors, il y a une chose qui m'a fait bien plaisir dans votre livre. D'abord, vous parlez énormément de Louis Chevalier, et ça, il faut pas lire que les livres de Benoît Dutertre. Hein.
Ah non, il faut
comme,
lire Louis
comme
Chevalier,
les Dents de la Mer, il faut lire Louis Chevalier.
Mais il faut pas lire seulement, d'ailleurs, là encore, je dirais celui que je cite principalement dans ce livre et que Debord citait justement, qui s'appelle L'assassinat de Paris. Il faut lire aussi ses livres sur les Parisiens, c'est le titre d'un de ses livres, hein, notamment, c'est un peu l'histoire, le portrait du Parisien, et puis aussi sur l'histoire des crimes à Pigalle, j'ai oublié le titre.
Montmartre du plaisir et du crime.
Voilà.
Avec une suite qui s'appelle Les ruines de Subur, où il déplore la destruction du Gaumont Palace.
Voilà. Et alors, Chevalier, avec qui j'avais échangé quelques lettres au moment où j'avais écrit un livre, c'est Requiem pour une avant-garde, Chevalier, donc, qui était un normalien, qui avait été le condisciple de Pompidou.
Exact.
Finalement, après, le choc pour lui, parce qu'il y a eu toujours des destructions de Paris, évidemment, c'est une grande ville, il y a des quartiers qui disparaissent, d'autres qui naissent, et il y en a eu un certain nombre déjà après la guerre, mais le choc pour lui, ça a été l'affaire des Halles, qui a été comme une espèce de destruction du cœur de Paris, ou dans le sens le plus profond du terme. Et c'est là qu'il a écrit ce livre, L'assassinat de Paris, dans lequel il revient justement sur la figure de Pompidou, ce paysan modernisateur qui avait des projets carrément déments pour Paris.
Déments. Et c'est d'autant plus grave que quand on lit son anthologie de la poésie française, elle est très classique, absolument pas choquante.
C'est vrai.
C'est pas la meilleure, mais elle est de très bonne qualité.
Ouais. Et là, il y a une espèce de mystère. Et c'est peut-être un personnage pour qui on aurait peut-être moins de penchant spontané que pour Pompidou, qui est M. Giscard d'Estaing, qui fort heureusement a mis fin
Ah, mais je vous rejoins.
À la plupart des chantiers de Pompidou.
Je vous rejoins et vous faites même une chose dans votre livre que je trouve très bien et je vais vous aller dans votre sens. Vous faites un éloge de Tibérie. Non, mais vous avez parfaitement raison. Parce qu'il se trouve que j'ai été parmi la bande de quelqu'un qui a été exceptionnel à Paris, qui était Michel Fleury, président de la
commission
du Vieux Paris, et qui m'a toujours dit, avec Tibéri, on avait tout ce qu'on voulait.
Bah, en tout cas, il écoutait. Mais surtout, c'est vrai, d'ailleurs, c'était un peu pour moi le point de départ de ce livre. J'avais envie, un peu par provocation, je m'étais dit, tiens, je vais écrire un petit éloge de Jean Tibéri. Parce que, j'en avais parlé autour de moi, je raconte ça dans le livre, et tout le monde prenait des airs affolés en me disant, ah non, tu peux pas faire ça quand même, tu peux pas faire ça. Comme si je faisais l'éloge d'un criminel absolument abominable. Alors moi, j'avais effectivement plutôt une certaine sympathie pour le Tibéri, même pour le couple Tibéri, et surtout le sentiment qu'il y avait une espèce de mépris presque social à gauche comme à droite pour ce couple, on dirait de Français moyens, qui faisait pas vraiment partie de la grande classe politique. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais ce qui est certain, c'est que Tibéri, au fond, a été maire de Paris et n'a été que maire de Paris. Et il a eu comme maire de Paris donc cette idée que voilà, il devait entretenir la ville, la rendre pratique, agréable pour ses habitants, ce qui est à mon avis le rôle précisément d'un maire. L'embêtement des autres maires de Paris, c'est qu'ils ont tendance à avoir des ambitions nationales qui, d'une part, l'emportent sur leur vocation de maire de Paris. Et puis dans le cas d'Hidalgo, c'est une chose encore un peu plus complexe, c'est que elle veut pas vraiment rendre Paris agréable ou s'occuper d'entretenir Paris. Elle veut pousser les gens à changer leur façon de vivre. Elle veut les rééduquer d'une certaine façon, service de la planète, au service de tout un tas de bonnes causes, des femmes, de ceci, de cela. Elle veut d'une certaine façon modeler l'esprit des Parisiens dans un sens progressiste. Et ça me semble être quelque chose qui ne relève absolument pas du rôle du maire d'une ville. Le rôle d'un maire doit être modeste, il doit simplement entretenir sa ville, et c'est ce que faisait Tibéri.
Vous avez raison, d'autant plus que non seulement les deux derniers maires de Paris, mais d'une certaine façon, ce qu'on appelle le politiquement correct, me rappelle une question que j'ai bien étudiée, qui s'appelle la révolution culturelle chinoise. D'abord, il ne faut pas laisser le citoyen en repos. Il faut qu'il ait toujours un mouvement de rectification, qu'on le reprenne en main. Et c'est terrifiant, enfin. D'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé dans votre livre. Oh, c'est moi qui donne le titre comme ça. Vous avez écrit, à propos des chauffeurs de taxi, vous avez écrit une sorte d'éloge des beaufs.
Oui, c'est...
Il faudra que je retrouve... évidemment, je l'ai mal noté. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Il n'y a pas si longtemps, je voyais les taxis comme des beaufs misogynes et passablement fachos que je prenais plaisir à faire parler pour les entendre proférer les pires horreurs. Aujourd'hui, nous sommes en symbiose et je pourrais m'inquiéter, partageons-nous une indignation légitime? Où est-ce que je serais devenu, à mon tour, un beauf? Je vous pose la question, Benoît Duteur, êtes-vous devenu un beauf?
Je sais pas. Les beaux, ça fait penser au regretté quand même, parce que j'aimais bien Cabu, mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même, c'est ce que je dis à propos de Tibéri, une espèce de vision finalement de gauche, mais très méprisante pour un certain type populaire finalement, qui est celui aussi du beauf. Hein, c'est pas chic, quoi, le beauf.
Bah oui, mais on pourrait le traduire par peuple parisien, et comme il y en a de moins en moins du peuple parisien, c'est un peu ça. Vous savez, je connais un écrivain qui écrit surtout pour les enfants, je donnerai pas son nom, qui m'a dit un jour deux vérités essentielles. Jean Gabin est un populiste, et Les Tontons Flingueurs est un film raciste et xénophobe.
Voilà, et curieusement, un film très populaire pourtant dans les banlieues, et notamment dans la population d'origine immigrée.
Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a aussi une chose dont vous parlez, et ça m'a fait bien plaisir, parce que vous parlez de la fameuse nuit blanche.
Oui, je parle surtout, enfin au sens large, de ce que mon ami Philippe Muret appelait le festivisme. C'est-à-dire, comme vous disiez à propos de la révolution culturelle à l'instant, ce ce besoin d'organiser tout le temps des événements et de mobiliser la population dans une espèce de fête, de défilé, de parade permanente. Et ça, c'est aussi quelque chose que je raconte de façon très concrète dans le livre, en tant que voisin de l'Hôtel de Ville de Paris, puisque le parvis de l'Hôtel de Ville, mais comme d'autres endroits à Paris, comme le Champ de Mars ou autre, est devenu le lieu permanent d'une série d'animations qui ne s'arrêtent jamais, enfin sauf en ce moment dans les circonstances qu'on connaît évidemment, mais tout le temps il y a quelque chose, hein. C'est la fête de l'eau, c'est la fête de l'Europe, c'est la fête de l'air, c'est la fête des femmes, alors souvent c'est avec des noms en anglais d'ailleurs, hein. C'est des parades sportives, des parades, des défilés de tambours brésiliens, des choses comme ça, il y a toujours quelque chose le week-end
qui commence à
faire du bruit dès le petit matin et qui mobilise comme ça toute la nouvelle population.
Il ne faut pas laisser le populo en repos, c'est mauvais pour lui, il va réfléchir.
Et tout ça, bon, c'est un peu des. C'est au fond, le génial inventeur de tout ça en France, c'est Jacques Lang, hein, qui a commencé avec la fête de la musique, mais maintenant, il y en a un tous les mois, quoi.
Vous ne croyez pas que c'est plutôt la fête de l'être suprême qui est à l'origine?
Ah, peut-être qu'on peut remonter jusque-là, oui.
Je voulais dire quand même un petit mot à propos de la Nuit Blanche. Quand elle a lieu, on nous dit qu'il y a eu 1 million de visiteurs. Ça voudrait dire qu'une personne sur 10 dans la région parisienne est venue voir les clowneries d'art contemporain. On nous ment. Et les chiffres de la police, pourquoi on ne nous les donne pas, là?
Ah oui, vous avez raison. En général, alors maintenant, ce genre d'événements, comme un certain nombre de festivals qui se succèdent l'été aussi devant l'Hôtel de Ville, j'essaie en fait de ma santé de Paris, comme j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne.
Dont vous rapportez d'ailleurs des pages magnifiques.
J'évite les technoparades, j'évite toutes les fêtes, j'évite le marathon, parce que tout ça fait beaucoup de bruit, tout ça est très fatigant, tout ça rend la ville pas agréable. Moi qui aime flâner, moi qui ai toujours aimé me balader dans Paris, passer d'une rue à l'autre, regarder les immeubles, regarder toutes les beautés merveilleuses de cette ville, voilà, j'aime pas cette lourde et bruyante.
Votre maison à la campagne, vous n'en parlez pas, c'est pas dans pourquoi je préfère rester chez moi.
C'est-à-dire que, oui, j'en ai parlé dans un certain nombre de livres de ce petit coin des Vosges que j'aime beaucoup, mais quelqu'un, il y a quelques jours, me faisait remarquer qu'effectivement, dans les circonstances terribles de ces derniers jours, le titre de ce petit essai que j'avais publié il y a 2-3 ans, « Pourquoi je préfère rester chez moi », prenait une résonance un peu spéciale. Mais de fait, oui, c'est vrai que voilà.
Attendez, vous n'avez pas suivi les règles. C'est-à-dire, comme vous habitez pas très loin de Notre-Dame, on est venu. Vous le dites dans le livre, hein, je balance pas. Hein, on est venu sonner à votre porte en disant si vous êtes là, partez immédiatement. Et vous avez fait le mort.
Oui, ça c'était au moment de l'incendie de Notre-Dame, dont je parle aussi donc dans ce livre, parce que je parle aussi dans ce livre. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment la faute d'Anne Hidalgo, c'est plutôt la tendance du pouvoir aujourd'hui, du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, de boucler systématiquement et immédiatement des quartiers entiers. On l'a vu au moment des gilets jaunes, etc. Dans une ville qui est déjà pleine de chantiers, d'embouteillages, de choses pénibles, ça rend les choses encore plus difficiles. Et effectivement, alors dans l'île de la Cité, j'ai été bien servi, puisque j'étais là au moment de l'incendie de Notre-Dame. Je suis réfugié chez moi, mais j'habite quand même relativement loin de la cathédrale. Je savais qu'il n'y avait vraiment aucun danger là où j'habitais. Mais toute l'île a été évacuée la nuit même, avec, pour accueillir les habitants, devinez quoi, une cellule d'assistance psychologique.
Voilà. Non, mais vous n'avez pas.
Je suis confiné dans mon appartement parce que je n'avais pas envie de me retrouver là-dedans. Mais après, ça a été un peu l'enfer puisque pendant des jours, des semaines, il fallait présenter.
Vous allez avoir besoin, cher Benoît Duterte, vous allez avoir besoin d'une assistance psychologique car il y a un projet de Madame Hidalgo qui était avec l'ancien président, heureusement, qui est de raser le marché aux fleurs de l'île Saint-Louis, de l'île de la Cité, et de le remplacer par un cube de verre.
Alors, oui, c'est ça. C'est pas tout à fait de le raser parce qu'ils n'auraient pas osé le dire comme ça, mais en gros ça fait partie effectivement de tout un grand plan de réaménagement de l'île de la Cité commandé par l'ex-président Hollande et Anne Hidalgo visiblement qui était avec lui pour la présentation, au pire des architectes, c'est-à-dire celui qui a quand même
Perrault.
La grande bibliothèque de France, qui est quand même une horreur absolue et en plus une chose qui n'a aucun sens puisqu'on faisait des tours en verre pour garder des livres, on a été obligé de trouver après des systèmes pour protéger les livres. Et ce monsieur a l'obsession du cube de verre ou des trucs en verre. Et
alors,
Anne Hidalgo trouvant le marché aux fleurs un peu mort et lui et le trouvant un peu décati, évidemment il est décati puisqu'on ne l'entretient plus du tout. Il veut, voilà, re, re, couvrir l'ensemble d'une cloche de verre et y développer des animations. Mais tout ça fait partie d'un projet beaucoup plus vaste qui reprendrait toute cette partie de l'île de la Cité, entre le métro Cité et le parvis Notre-Dame, pour en faire une espèce de grande base touristique.
Écoutez,
et plus un simple quartier de Paris.
Benoît Dutertre, vous avez écrit Les Dents de la Mer aux éditions Fayard. C'est un livre qui fait du bien, mais là, on va commencer à se faire mal si on continue à parler de tous leurs projets. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation.
Merci
Benoît
Alain,
Dutertre.
Merci beaucoup.
Et j'espère qu'un jour vous reviendrez aussi dans le studio.
Bien.
Bonne soirée Benoît Dutertre.
Merci, au revoir.
Au revoir.